Radio Okapi. À la présentation du journal, Belinda Bossouma.
Plus de 7000 femmes et jeunes filles souffrant des fistules vésico-vaginales en Ituri doivent être opérées. L'alerte est du médecin responsable de l'hôpital général de référence de Bounia. Cela à l'occasion du 23 mai, journée internationale de l'élimination des fistules obstétricales. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale est désormais connu. 3 des 7 membres sont des femmes. Elles représentent 43% du bureau de la Chambre basse du Parlement. Dans ce journal, le portrait de ces dames qui composent le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et puis, la production du thé dans la partie sud du Nord Kivu est à l'arrêt depuis 1998. Situation consécutive à la guerre continue dans cette province. Révélation du directeur provincial de l'Office national des produits agricoles du Congo en marge de la journée mondiale du thé. Jean Chrysostome Njakemala est l'invité de ce matin. À tous et à toutes, bonjour. La province de l'Ituri compte plus de 7000 femmes et des jeunes filles souffrant des fistules vésico-vaginales qui nécessitent qu'elles soient opérées. C'est ce que déclare le médecin responsable de l'hôpital général de référence de Bounia à l'occasion de la célébration le 23 mai de la journée internationale de l'élimination des fistules obstétricales. Toujours selon lui, depuis 2018, plus de 800 femmes ont été opérées et réinsérées dans leur famille. Le docteur John Tabouka en parle au micro de Jean-Claude Loki.
Selon la plupart des témoignages de mes malades que j'ai opérés, il faut souligner aussi qu'il y a des témoignages selon lesquels ces femmes m'ont dit que les hommes en armes pouvaient venir contraindre leurs enfants à les rendre à 7. Vous voyez, ils viennent dans une maison, ils récupèrent des enfants de 12 à 13 ans, 14 à 16 ans, et puis partent avec, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, et reviennent à 7. Et dès qu'elles sont grosses, elles atteignent le terme, mais vous voyez, ce sont des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de leur maturité, leur bassin n'est pas préparé pour recevoir le bébé. Je parle en termes faciles, hein, et par voie de conséquence, pendant l'accouchement, généralement, et surtout que ce soit des enfants pour qui devaient bénéficier soit d'un accouchement par césarienne, assistance médicale, il n'y a qu'une personne, la femme se trouve bloquée dans la filière génitale. Et dès que la femme se trouve bloquée dans la filière génitale, soit ça peut entraîner des hémorragies, elle peut se déchirer. Je vous dis, sur 10, 9 meurent. Alors, les porteuses de cette infirmité gynécologique, après ces dégâts qui s'est déjà créés dans leur filière génitale, sont les seules survivantes.
Notez que ces interventions chirurgicales ont été faites avec l'appui des différents partenaires, dont l'ONG catholique Caritas Développement, Médecins sans frontières et le Fonds des Nations Unies pour la population. Dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, nous apprenons que la localité de Supakalaou ne dispose pas des structures sanitaires depuis 8 ans. Cette localité du groupement de Bouliki compte environ 10 000 habitants. Son unique centre de santé a été détruit en 2017 par des rebelles des EDF au cours d'une attaque, une situation qui prive des milliers de personnes d'accès aux soins de santé primaires. Marc Marofimbo revient de la zone, voici son reportage.
Située à 15 km dans le sud-est de la ville de Beni, à la limite avec le parc national de Virunga, la localité de Supakalaou ne dispose d'aucune officine pharmaceutique. Le seul centre de santé de Supakalaou a été détruit en 2017 par les rebelles des ADF. Depuis lors, les habitants vivent un véritable calvaire. Les malades et des femmes enceintes doivent parcourir 15 km pour atteindre la structure sanitaire la plus proche dans la ville de Beni. Explication de Judith Masika, habitante de Supakalaou.
Notre cri d'alarme est au niveau de la santé. Ceux qui passent nuit ici peuvent se faire soigner ici. Mais présentement, celui qui tombe malade descend en ville de Beni. Si ton cas n'est pas grave, tu fais le pied en étant malade jusqu'en ville avant de regagner encore ton champ.
Bosco Palukumbweveriho est le chef adjoint de la localité. Il plaide de toute urgence pour la réhabilitation de leur structure sanitaire afin d'apaiser la souffrance des habitants de Supakalaou, victimes des atrocités des ADF, mais très résilients.
Notre centre de santé a été détruit. Nous plaidons à nos autorités de réhabiliter. Car si quelqu'un tombe malade, nous le transportons en moto jusqu'à Beni.
Rappelons que la dernière attaque des ADF à Supakalaou remonte à 2021. Bien qu'il existe encore ici des stigmates, la vie a repris son cours normal. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Restons à Beni. Quid du désengagement de la MONUSCO? C'est autour de ce thème que la section des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO Beni a réuni une centaine de jeunes hier à travers le Parlement des jeunes de la ville. Au cours des échanges, ils ont également abordé la question liée à la désinformation et ses conséquences dans la région. Ils disent avoir constaté que souvent, les incompréhensions entre la mission onusienne et la population naissent de la désinformation et manipulation de la jeunesse. L'un des participants, Pascal Kambalé, explique l'opportunité et l'importance de cette activité. Il est au micro de Guylaine Kassassia.
J'ai constaté que si la jeunesse congolaise a toujours des problèmes, c'est parce qu'elle n'est pas informée. On nous informe à des choses lorsqu'il y a eu déjà des conséquences à cause de non-informations. La sensibilisation ici a été très importante pour moi parce que j'ai connu beaucoup de choses que je ne savais pas. Par exemple, je ne savais pas que signifie mandat de la MONUSCO. Nous savons qu'ils sont venus seulement pour nous donner la paix. Et voilà qu'on constate que c'était pour appuyer le gouvernement. C'est pourquoi on s'attaque à eux parce que nous ne sommes pas informés. Alors moi, je recommanderais aux participants d'aller sensibiliser les amis. Alors ça ferait du bien lorsque tout le monde sera informé comme nous sommes déjà informés. Peut-être les gens comprendront le rôle de chacun, le rôle de notre gouvernement, le rôle de la MONUSCO. Et ça va nous aider à différencier et de connaître qui peut faire quoi et qui a failli dans sa mission. Et cela va nous aider aussi à ne pas s'attaquer à celui qui n'est pas responsable de ce qui a été fait. Là, et ça va nous aider aussi à lutter contre la désinformation.
Par ailleurs, des dizaines de jeunes sont outillés à Goma sur la lutte contre la désinformation et les discours de haine. C'est à l'initiative de la MONUSCO toujours qui a organisé hier à Goma un atelier d'échange à ce sujet portant sur la culture de la paix et la communication non violente. L'objectif est de réduire la désinformation propagée sur les réseaux sociaux. C'est aussi une occasion de mobiliser les jeunes de toutes tendances contre les discours de haine à l'égard des institutions du pays et leurs partenaires. Cela en vue de contribuer à la consolidation de la paix. Le compte-rendu de Bernardine Diambou.
L'atelier a réuni entre autres les activistes des mouvements citoyens, les jeunes motards, les acteurs de la société civile, les jeunes de la RIE et les structures des femmes. Objectif, amener ces acteurs à lutter contre la désinformation, les discours de haine qui rongent de plus en plus la communauté. Anastasie Moulumba est officier des affaires civiles de la MONUSCO.
Cet atelier, c'est encore une autre opportunité qui est offerte à cette population pour échanger, pour essayer de réfléchir autour des questions qui continuent à miner quand même la paix dans cette province, notamment la désinformation.
De leur côté, les participants ont émis les souhaits de voir ce genre de communication s'élargir à d'autres couches de la population. Prince Baningue, président du CPLC Goma.
En tant que jeunes, nous avons besoin d'acquérir beaucoup de compétences, de connaissances, mais aussi comprendre aussi le rôle du gouvernement, le rôle de la MONUSCO, parce qu'à Goma, il y a toute une population, mais d'intensifier cela, afin que cette communication soit atteinte parmi beaucoup d'autres gens et comprendre exactement l'importance de ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui.
C'était aussi une opportunité pour d'autres sections substantives de la MONUSCO d'expliquer tour à tour leur domaine d'intervention dans l'exécution du mandat de la MONUSCO. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Nous sommes toujours au Nord Kivu. Quatre jeunes membres des mouvements citoyens sont gardés à la police à Goma depuis le mercredi. Ils ont été interpellés au moment où ils participaient à une manifestation de protestation contre la pénurie d'eau dans une grande partie de la ville de Goma. Pour Moïse Angui de la Loucha RDC, on ne devrait pas arrêter et détenir une personne qui réclame son droit le plus légitime, qui est l'accès à l'eau potable. Moïse Angui est dans ses propos recueillis par Chris Moukand-Matante.
Alors que nous nous réunissions au rond-point Moutinga pour dénoncer la pénurie d'eau potable en ville de Goma, beaucoup plus dans la commune de Karisimbi, la police a violemment réprimé notre manifestation au point d'arrêter quatre de nos camarades qui viennent de passer leur première nuit au niveau du PD. Nous demandons aux autorités provinciales et urbaines de s'impliquer pour la libération de ces défenseurs des droits de l'homme. En dépit des affres de la guerre que nous traversons au Nord Kivu avec l'agression rwandaise dont nous sommes victimes, nous manquons de l'eau. Nous ne comprenons pas comment est-ce qu'une ville située au pied du lac comme Goma peut être en cette pénurie qui nous cause beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi nous invitons les responsables de la régie des eaux à trouver des solutions adéquates à ces problèmes entre États, nous restons déterminés à poursuivre la lutte jusqu'à ce que la ville de Goma soit desservie en eau potable.
Au sujet de cette manifestation, notez que le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Faustin Kapend, a publié en début de semaine un communiqué qu'il interdisait, un refus qu'il justifie par des raisons sécuritaires. Je vous l'ai dit dans les titres, le bureau définitif de l'Assemblée nationale est enfin là. 3 membres sur les 7 élus et installés mercredi sont des femmes. Ces dernières représentent 43% du bureau de la Chambre basse du Parlement. Dominique Munongo, Chimène Polipoli et Grace Neema vont donc travailler avec Vital Kamere, Jean-Claude Chilumbayi, Christophe Mbosso et Jacques Joly pour permettre au pouvoir législatif de jouer pleinement son rôle pour le bon fonctionnement des institutions. Blaise Makassi Nandes nous permet de découvrir ces dames qui composent le bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Si l'on doit se référer au discours de Vital Kamere, c'est pour la première fois que 3 des 7 membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sont des femmes. Dans les bureaux précédents, elles étaient 2. Le seul poste réservé à l'opposition est occupé par Madame Dominique Mulongo, celle qui a battu Constant Mutamba avec qui elle concourait. Élue de Luboudi dans la province de Lualaba, cette sociologue de formation est ancienne bourgmestre de la commune de Likasi. Coordonnatrice de la Ligue des femmes d'Ensemble pour la République, partie chère à Moïse Katumbi, elle s'est définie comme une activiste des droits humains et de la promotion de la femme et s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté et la corruption. Elle est à sa 2e législature après celle de 2018. Les finances de l'Assemblée nationale seront gérées par 2 dames, Chimène Polipoli et Grace Neema. Chimène Polipoli Lunda est élue de Malembankoulou. Licenciée en relations internationales, doctorante en politique étrangère et assistante à l'université de Lubumbashi, elle a été vice-gouverneure du Olomami et administrateur à la Banque centrale du Congo. Elle sera accompagnée par Grace Neema, élu des Ango dans la province du Bazouélé comme questeur adjoint.
Culture, Kinshasa vers une gouvernance résiliente de la mégapole, c'est le titre de l'ouvrage écrit par Albert Angbana, directeur de la coordination de la décentralisation sectorielle et rapport avec les provinces et les entités territoriales décentralisées. Le vernissage du livre a eu lieu hier à Kinshasa, au centre CEPAS, en présence de plusieurs invités. Dans ce livre de 187 pages, l'auteur décrit les réalités de la capitale congolaise au regard de la constitution, des textes légaux et réglementaires. Il estime que la ville de Kinshasa est en proie à une urbanisation incontrôlée. Selon lui, plusieurs tentatives pour éradiquer ce fléau se sont soldées par des échecs. Albert Angbana parle de son ouvrage au micro de Jean-Marc Matouaki.
Dans le livre, j'ai démontré que Kinshasa peut amorcer maintenant la rénovation, le changement, parce qu'il a atteint le point d'achèvement en ce qui concerne le parachèvement institutionnel, c'est-à-dire étant donné qu'on a organisé les élections à tous les niveaux, on a des conseillers communaux, donc Kinshasa peut maintenant valablement appliquer la décentralisation. Voilà pourquoi j'ai, en rapport avec les textes légaux réglementaires qui existent, proposé des pistes de solutions pour une gestion efficace de la ville de Kinshasa. J'ai dit que la plupart des gens qui dirigent la ville de Kinshasa n'arrivent pas à percevoir le vrai problème, parce que le problème de Kinshasa est d'ordre institutionnel et structurel. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous serez toujours à côté de la plaque. Il y a d'abord l'étendue des communes. Vous avez des communes de 2 millions d'habitants, ce qui amène ipso facto une sous-administration qu'il faut résoudre, parce que la décentralisation, c'est la gestion de proximité.
Dans l'actualité aussi, la remise des 2 nouveaux bâtiments ultra-modernes financés par le gouvernement du Japon au bénéfice de l'Institut national de préparation professionnelle INPP Bunia, ce avec l'appui technique du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS. C'était au cours d'une cérémonie hier à la direction de l'INPP 11e rue limitée à Kinshasa. La remise de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre du projet renforcement des capacités des directions provinciales de l'INPP. La clé symbolique a été remise aux bénéficiaires par Madame la ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale. On écoute à ce sujet Godefroy Stanislas Chimanga, administrateur directeur général de l'INPP. Il est au micro de Jeff Opela.
Le Japon apparaît sous nos yeux comme un partenaire privilégié dans le rayonnement de notre institution. À travers cette acquisition, l'INPP s'imposera davantage en répondant favorablement aux besoins réels des entreprises afin d'accroître leur compétitivité et leur productivité, ce qui facilitera l'émergence de la classe moyenne, l'esprit d'entrepreneuriat dont notre économie a fortement besoin pour mettre fin au déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi sur le marché national.
Actualité internationale.
Le président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, vient de prêter serment lors d'une cérémonie devant plusieurs chefs d'État de la sous-région. Cette investiture met ainsi fin à la période de transition que dirigeait l'homme depuis la mort de son père. Le scrutin avait été reporté à plusieurs reprises en raison d'un projet de révision constitutionnelle.
L'invité.
La production du thé dans la partie sud du Nord Kivu est à l'arrêt depuis 1998. Des plantations déracinées et abandonnées et des usines complètement pillées. Cette situation fait suite à la guerre continue que connaît le Nord Kivu. Ainsi, les opérateurs économiques se tournent vers les pays frontaliers, ce qui constitue un manque à gagner pour l'État congolais, déplore un responsable qui gère cette filière. Jean Chrysostome Njakemala, directeur provincial de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC Nord Kivu, nous parle de cette filière. Il est avec Denise Lukeso.
Monsieur le directeur, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Au Nord Kivu, quel état des lieux de la culture du thé vous faites?
Aujourd'hui, l'exploitation du thé, c'est un peu difficile dans notre secteur de l'ONAPAC Goma. Parce que les exploitations de thé qui existaient, c'était dans les territoires des Masisi et une petite partie ici à Rutshuru. Et avec l'insécurité qui sévit actuellement dans cette région, presque toutes les usines ont été démontées. Et quand il n'y a pas des usines, vous savez que lorsqu'on récolte des thés, dans quelques heures, vous devez amener ces thés-là dans des usines pour la transformation. Mais malheureusement, toutes ces usines ont été d'abord démontées, pillées, et les plantations sont restées abandonnées et qu'aujourd'hui, un jour d'aujourd'hui, en tout cas, dans notre secteur, là où nous contrôlons, c'est difficile. Mais néanmoins, nous enregistrons les thés qui nous proviennent de la province du Sud Kivu, là où il y a un peu des opérateurs économiques qui exploitent, mais difficilement les thés, et pour les amener à Kinshasa. Ici, sur place à Goma, nous avons des mamans qui se débrouillent, ils vont dans le Sud Kivu pour acheter du thé et les amener ici pour la consommation locale. Dans le petit nord ici, on est devenu seulement une région où les gens consomment les thés, et ces thés proviennent non seulement du Sud Kivu, mais aussi du Burundi.
Mais c'est d'être comme qui dirait, aujourd'hui, la culture du thé n'est plus pratiquée dans la partie sous votre gestion, donc la partie petit nord de la province.
Non, non. Cette situation nous handicape surtout dans les fonctionnements même de notre secteur. Vous savez que nous, ici à l'ONAPAC, nous sommes un secteur qui devrait générer des ressources et fonctionner. Mais pour le moment, on est vraiment paralysé suite à cette guerre. Donc c'est vers les années 97-98 que l'exploitation du thé s'est arrêtée dans la partie où nous contrôlons.
Les jardins des écoles de Ngeri, qui étaient une grande vaste concession où le thé était exploité, et réputé pour la culture, la production et la transformation du thé. Aujourd'hui, quel état de lieu de cette société que vous faites?
À un certain moment, un opérateur économique de la place, c'est lui qui exploitait ça, mais actuellement, avant même les hostilités, en tout cas la production n'était plus visible. Aujourd'hui, l'usine qui était là, c'est obsolète. Avant les années 96, la production était de 60 à 70 tonnes par trimestre. Donc plus ou moins 240 tonnes par an. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit ici, que c'est arrêté, ils ne font plus ça.
Même pas une tonne?
Non, même pas. Parce que comment aller faire? Parce que vous savez que ce n'est pas rentable. On ne peut investir ou travailler que lorsque vous savez que vous allez gagner.
Comme qui dirait que toutes les usines de production, de transformation du thé au Nord Kivu, dans non, la partie Nord, ont déjà fermé?
Oui, oui, presque. Il y avait deux ou trois usines, mais toutes ces usines ont été fermées.
Et comment vous comparez le goût du thé ou la teneur du thé du Nord Kivu par rapport au thé que nous importons aujourd'hui?
La différence, c'est que, vous savez, ici en République du Congo, plus particulièrement les produits sous contrôle de l'ONAPAC, c'est-à-dire les produits agricoles pérennes d'exportation, nous, on n'admet pas les engrais chimiques ou introduire les engrais chimiques dans la production. Nous faisons l'agriculture bio et souvent notre thé est de qualité supérieure.
C'est possible de relancer la production du thé dans la province du Nord Kivu?
Mais effectivement, parce qu'il y a la demande. Il y a une forte demande à Kinshasa. Vous savez, je vais vous surprendre que même la production qui est dans le Grand Nord, là, c'est insuffisant. Et la plupart des opérateurs économiques recourent dans des pays frontaliers pour acheter le thé et amener ça dans les différentes agglomérations de notre pays, notamment la ville de Kinshasa. Si toutes les conditions sont réunies, investir dans cette filière thé, ce serait une bonne chose.
La production du thé a sensiblement diminué au Nord Kivu, si pas dire que les usines sont entrées en faillite ou ont carrément abandonné, fermé leurs portes. Et à quelles conditions vous pensez qu'on peut relancer cette filière du thé dans la province? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on relance cette filière?
Pour le thé, il y a la demande. Donc, on ne peut cultiver ces produits-là, thé, café, que dans de milieux ruraux. Nous pensons que s'il y a la sécurité et que l'État, dans son pouvoir régalien, aménage des routes, je pense que c'est faisable. La relance est là parce que nous avons des potentialités. Nous sommes dans une région montagneuse et nous pensons que toutes les conditions, si elles sont remplies, on peut faire la relance de ces produits.
Monsieur Chrysostome, Radio Kapi, vous remercie.
Jean Chrysostome Djakemala, directeur provincial de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC Nord Kivu, répondait aux questions de Denise Lukeso. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.